vient d'être à 17h au studio Kalangou. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information au micro Nafis Adam Sirfo. À la une, hier 28 janvier, les trois pays de l'AES que sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont annoncé dans un communiqué leur retrait avec effet immédiat de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à CEDEAO, des précisions dans un instant. Les régions du Niger sont couvertes ces derniers jours par une poussière, un phénomène normal dû à l'harmattan selon les services de la météorologie du Niger. Dans le magazine Justice du jour, un juriste nous édifie sur le plaidé coupable, une procédure pénale qui consiste à fixer la peine d'une personne poursuivie avant de comparaître devant le juge. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont, dans un communiqué conjoint hier dimanche 28 janvier, annoncé leur retrait avec effet immédiat de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les détails avec Asman China.
En prenant cette décision, les autorités des trois pays membres de l'AES, Alliance des États du Sahel, considèrent que la CEDEAO s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. Elle vit sous l'influence des puissances étrangères. Elle est devenue une menace pour ses États membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur selon le communiqué conjoint. L'organisation n'a pas assisté le Niger, le Mali et le Burkina Faso dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'insécurité, deux fléaux qui sévissent depuis 2012 dans la zone. Et lorsque ils ont décidé de prendre leur destin en main, écrivent-ils, la CEDEAO leur a imposé des sanctions qu'ils qualifient d'illégitimes et d'illégales. Selon les textes de l'organisation communautaire, cette décision des pays de l'AES de se retirer de la CEDEAO ne deviendra effective que dans un an. De son côté, la CEDEAO a déclaré qu'elle n'a pas encore reçu de notification formelle directe des trois pays membres concernant leur intention de se retirer de la communauté. Pour rappel, la CEDEAO a été créée en 1975 à Lagos, au Nigeria.
Depuis le 25 janvier 2024, un phénomène de poussière est observé dans toutes les régions du Niger. Ce phénomène dû à l'harmattan est, selon la Direction nationale de la météorologie du Niger, tout à fait normal car nous vivons actuellement dans la saison. Plus de précisions avec Mme Amine Nafissa, prévisionniste à la Direction de la météorologie nationale. Elle est interrogée par Fanta Chamsou.
Cette saison, elle est marquée par les vents d'harmattan et cela crée un soulèvement de poussière. Nous sommes actuellement en train de vivre ce phénomène de poussière. Cela a commencé vers le 25 janvier 2024. Le 26 janvier, nous avons eu à faire un bulletin spécial pour attirer l'attention des populations face à cette poussière qui réduit significativement les visibilités sur pratiquement la bande sud du pays. Donc c'est tout le pays qui est concerné et même le nord du pays. Donc on a aussi une baisse de température qui accompagne cette poussière. Pour les jours à venir, ce sera toujours cette poussière qu'on va observer et cela a des conséquences sur la santé et la circulation routière.
À Niamey, l'insécurité en milieu scolaire est devenue ces derniers temps un phénomène majeur qui entrave le développement de l'éducation. Sidi Mohamed, président du Conseil national de la jeunesse, tire la sonnette d'alarme au micro de Hassan Nour Abdrahman.
Nous avons constaté beaucoup de cas nous ont été relevés et on nous a fait cas de ces violences dans plusieurs établissements scolaires. Et surtout des agressions, pas des moindres, hein, sur des personnes innocentes comme des fillettes, comme des filles, des scolaires qui viennent, qui sont vraiment dans un cadre scolaire, mais qui sont agressées. En dehors de ça, il y a tout à l'heure, vous avez fait cas de CG25, moi je dirais aussi partout, c'est pas seulement au CG25, c'est un peu partout. Prenez des étudiants qui viennent le matin prendre le bus, vous savez, les bus souvent quittent très tôt pour aller au niveau du campus, au niveau des différentes facultés. Tous ces étudiants, toutes ces personnes sont agressées. Nous allons faire des sensibilisations d'abord au niveau des établissements pour que les jeunes se sécurisent eux-mêmes, en particulier les étudiants, mais surtout aller vers les autorités en charge de la sécurité pour leur dire que vraiment voilà là où il y a des menaces qu'il faut prendre très au sérieux. Et donc pour nous c'est quelque chose à condamner, c'est des mesures draconiennes qu'il faut prendre contre ces agressions.
La situation que traverse le Niger depuis le coup d'État du 26 juillet a amené le maire de Ngingimi de la région de Difa à lancer un appel à l'endroit de la population, celle-ci de continuer à renforcer l'unité et la cohésion sociale. Écoutons Oumarama Lamhaladou, maire de Ngingimi, au micro de Meina Abdoulaye.
Nous sommes à la phase de la reconquête de notre souveraineté et puis c'est un moment crucial où vraiment notre pays a besoin de contribution, de collaboration de toutes ses filles et de tous ses fils. Vraiment, nous profitons de votre micro pour lancer un appel à l'endroit de la population de la commune urbaine de Ngimi et au-delà de la population même du Niger, de s'unir tous derrière notre FDS, derrière notre les plus hautes autorités pour apporter le maximum de contributions qu'il faut pour que cette transition soit une réussite pour notre pays. Et Dieu merci, vraiment les résultats sont bons, les perspectives sont vraiment positives. Nous sommes persuadés qu'à l'allure actuelle, les objectifs assignés par les plus hautes autorités de notre pays seront atteints.
La suite de ce journal, une famille de malvoyants à Dosso a perdu 3 de ses enfants dans un incendie de la nuit du 27 au 28 janvier 2024 à Mendjokwara, un quartier de la commune urbaine. La mère, elle est sortie avec des blessures. On ignore à l'heure actuelle la cause du sinistre. Suivant le témoignage de la mère des enfants décédés au micro de Nana Hadiza Hassan.
L'incendie s'est déclenché pendant que nous dormions. Quand je l'ai remarqué, j'ai tout de suite alerté tout le monde. J'ai essayé de faire sortir ma petite fille, mais elle est tombée à côté de l'arbre. J'ai essayé de la prendre à nouveau, mais la chaleur du feu me l'a empêchée. Et quand je me suis ressaisie, le feu était déjà monté. La plus grande de mes filles a pu s'échapper aussi, mais les 3 autres y sont malheureusement restés, tous les 3. Nous ne connaissons pas l'origine de l'incendie, car nous n'avions pas allumé de feu. Nous dormions même quand tout cela s'est passé. J'en ai aucune idée.
L'actualité est toujours en région. Débutée il y a plus d'une semaine, la campagne de vaccination gratuite du cheptel se déroule normalement dans le département de Douchi selon les responsables. Elle concerne aussi bien les petits que les gros ruminants et elle est obligatoire. Docteur Sadou Moussa Doubou, vétérinaire en charge de cette vaccination, explique au micro de Abdelaziz Denyouma.
La campagne de vaccination, elle concerne en fait 3 types de maladies. La première maladie, c'est ce qu'on appelle la peste des petits ruminants, qui concerne les petits ruminants, à savoir les caprins et les ovins. Et la pasteurilose des camélins, qui concerne les dromadaires. Et la péripneumonie contagieuse des bovins, qui concerne, comme le nom l'indique, les bovins. Cette campagne est organisée pour en fait améliorer la couverture sanitaire de notre troupeau. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'un troupeau qui n'est pas sain n'est pas apte à être exporté. Donc, il faudrait qu'on ait un troupeau sain pour qu'on puisse avoir des retombées économiques significatives. Et cette campagne, elle est gratuite. Elle est gratuite, mais elle est obligatoire. Actuellement, nous avons des équipes dans tout le département. 22 équipes réparties dans les 6 communes qui sont en train de sillonner villages, hameaux, campements pour pouvoir vacciner tous les animaux.
Parlons donc de cette campagne de vaccination du cheptel qui a été lancée à Liwa au Tchad le 27 novembre 2023. Elle se poursuit donc à Difa et dans les confins de la frontière nigéro-tchadienne. Le directeur régional de l'élevage de Difa donne des précisions sur cette campagne. Bourem Hamidou est au micro de Mani Moussa.
Nous avons un objectif de 1 330 000 bovins, environ 1 900 petits ruminants et plus de 400 000 camélins. Nous avons un effectif vacciné qui tourne aux environs de 40 000 pour le moment, mais on va lentement mais sûrement. Parce que le vaccin est là, il n'y aura pas de rupture. Nous allons encore déployer davantage des équipes pour satisfaire l'ensemble des éleveurs. Le seul appel que nous avons aux éleveurs, c'est de faire en sorte que partout où ils entendent les équipes, c'est de présenter leurs animaux pour que nous puissions les vacciner. Il est important pour chacun des éleveurs, de ne pas accepter que les équipes vaccinent leurs animaux sans les marquer.
En sport, le vendredi 26 janvier s'est ouvert une compétition de lutte traditionnelle de la commune de Dueniamé. Promouvoir la cohésion sociale entre les jeunes de l'arrondissement communal de Dueniamé était l'objectif principal de cette activité. Soumaïla Zakari, président du conseil de l'arrondissement Niamey 2, donne des précisions au micro de Hassan Nour Abdrahman.
Nous sommes là pour l'ouverture de la toute première édition de lutte traditionnelle dénommée Sabre de l'arrondissement communal Niamey 2. C'est une initiative du Conseil des jeunes de la commune 2 qui a été vraiment prise pour que la jeunesse puisse apporter sa contribution pour l'édifice national. D'où le thème de cette activité, engagement de la jeunesse pour la sauvegarde de la patrie. Au-delà de ça, c'est une activité qui vise, entre autres, la cohésion sociale entre les jeunes, mais aussi pour que les jeunes puissent voir dans quelle mesure ils vont contribuer pour le développement de notre pays. On doit comprendre nos droits et nos devoirs.
En bref, les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football, la Côte d'Ivoire 2024, ont démarré le 27 janvier 2024. Déjà, on connaît les premières nations qualifiées pour les quarts de finale de la compétition. Il s'agit de l'Angola, du Nigeria, de la Guinée-Conakry et la République démocratique du Congo. Les matchs de ce soir détermineront les deux pays qui vont se joindre aux qualifiés, le Cap-Vert face à la Mauritanie et le Sénégal sera face à la Côte d'Ivoire. Le magazine Justice de ce lundi, le plaider coupable est une procédure pénale qui consiste à fixer la peine d'une personne poursuivie avant de comparaître devant le juge. En quoi consiste cette procédure pénale? Quelles sont les conditions de son application? Maître Ali Moussa répond au micro de Anissé Karim.
C'est ouvert, vous pouvez vous asseoir.
Dans l'administration de la justice, le procureur dispose de la décision du sort réservé à la comparution sur reconnaissance préalable de la culpabilité. En quoi consiste la procédure de plaider coupable? Maître Ali Moussa.
Cette procédure est prévue par les articles 379 et suivant du Code de procédure pénale qui parle véritablement de ce qu'on appelle principalement la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. La personne poursuivie soit jugée par le juge du jugement. Cette fois-ci, c'est devant le procureur que sa peine est fixée. C'est une entente en quelque sorte entre le procureur et la personne poursuivie. À partir du parquet, déjà, il sait la peine qu'il va encourir, le délai, tout et tout.
Le plaidé coupable s'accorde à travers des conditions fixées par la loi. Il est sujet à une demande du procureur ou de l'intéressé, explique Maître Ali Moussa.
Pour véritablement passer au plaidé coupable, il faut d'abord noter que ça concerne principalement les délits punis de peine d'amende et les délits punis de peine d'emprisonnement inférieur à 10 ans. Donc il faut que ces conditions-là soient réunies d'abord. Maintenant, il appartient au procureur de la République de demander d'office ou de proposer ou même l'intéressé ou son avocat, son conseil, pourra faire cette demande pour recourir à cette procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le CRPC.
La procédure du plaidé coupable procure non seulement à la personne poursuivie la non-comparution devant le juge, mais également la fixation de son sort pénal.
Au cas où l'emprisonnement est décidé par le procureur, sa durée ne peut excéder la moitié de la peine à encourir. Le procureur peut proposer tout ou partie le sursis par rapport à cette peine. Donc les conséquences, c'est que la personne poursuivie n'ira pas devant le juge du jugement. Entre autres, la rapidité de connaître son sort, de la peine à encourir, de la durée de sa condamnation et aussi la facilité de pouvoir décanter les dossiers judiciaires.
L'audience est levée.
Ici prend fin ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. Juste après les journaux en langue nationale, vous pourrez écouter le forum de Studio Kalangu à partir de 18h15. Et n'oubliez pas d'écouter les journaux et les magazines sur le 325 avec la puce RTL gratuitement et le reste des productions sur l'application Studio Kalangu disponible sur Play Store. Tout de suite, le journal en langue tamashek avec Tarnan Foudey Ahmed. Studio
Kalangu. Tous les jours, écoutez les programmes du studio Kalangu sur les ondes de nos radios partenaires.
Et sur WhatsApp au 80 06 88 54 à partir de 17h.
N'oubliez pas nos rendez-vous hebdomadaires.
Lundi, nous abordons une question de droit dans la partie magazine.
Mardi, suivez le magazine Bien-être à la fin des journaux et le forum Espace Femmes à 18h15.
Ne manquez pas le forum de la presse du vendredi pour le décryptage de l'actualité de la semaine.
Samedi et dimanche, place à l'actu des jeunes à partir de 17h, suivi de Tous à la Fada.
Et Studio Kalangu au rythme du Niger.